Bien, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Je vois avec plaisir que quelques personnalités des arts et lettres ont quitté Roland-Garros, parce qu'ici, au moins, même quand il pleut, on joue. Je ne peux pas imaginer que c'est parce qu'on va parler d'histoire moderne, mais pourtant, c'est ça qu'on va faire. La séance est intitulée « Les transitions de la modernité, épistémologie et historiographie d'un changement d'époque ». Et pour l'introduire, j'aimerais évoquer la parution toute récente du livre de Jean-Claude Schmitt, « Des rythmes au Moyen-Âge », qui fait justement écho par son titre à notre précédente séance « Rythme, problème, trace, le Moyen-Âge comme articulation des mondes et régimes documentaires ». Jean-Claude Schmitt y livre une somme impressionnante et admirable sur l'ordre du temps au Moyen-Âge, et l'on peut aussi lire ce livre comme un essai sur le changement d'époque. Et c'est la question du changement d'époque qui va nous intéresser cet après-midi. Le titre de la première partie du livre de Jean-Claude Schmitt, « Des rythmes modernes au rythmus médiéval », par son allure régressive, à rebours du temps, dit bien ce rapport spéculaire entre Moyen-Âge et modernité qui nous a intéressés ici. Jean-Claude Schmitt y postule « Entre le Moyen-Âge et nous, une inversion » du rapport au rythme du monde, les médiévaux se pliant au rythme cosmique, alors que les modernes se laissent submerger par la tyrannie des rythmes qu'ils se donnent. Il y a donc bien un changement d'époque, ou plutôt, comme le dirait Kosellek, une temporalisation. Et Alexandre Escudier, à ma gauche, qui le commente, Kosellek, dans un important article paru dans les Annales en 2009, prolonge cette notion de temporalisation par celle de régime d'attente, en tant que le régime d'attente est toujours clivé entre des éléments prévisionnels cognitifs, d'une part, et des éléments normatifs expectatifs, d'autre part. Et le changement d'époque, alors, à l'intérieur même du régime d'attente, serait donc une différence de proportion ou une variation d'équilibre entre ces deux éléments. On comprend bien pourquoi Jean-Claude Schmitt donc pratique ainsi l'histoire à rebours de la modernité, parce qu'il trouve dans ce qu'il appelle tour à tour les années 1800 ou les années 1900 deux seuils, pour reprendre une expression présente dès notre première séance, ou deux transitions, selon la proposition qui nous réunit dans cette séance même, deux seuils ou deux transitions à partir desquels le médiéviste théorise ses propres outils d'analyse. Et particulièrement éclairant est la reprise d'un passage de Gilles Deleuze et Félix Guattari dans « Mille plateaux ». Vous vous souvenez peut-être que c'est le livre sur lequel nous nous étions arrêtés justement à la toute fin de la semaine dernière, « Mille plateaux », Deleuze et Guattari définissant la ritournelle comme à partir de la réactivation de la vieille distinction médiévale, pour le coup, entre metrum et rhythmus, entre la mesure et le rythme, je cite, « La mesure est dogmatique, mais le rythme est critique ». Or, ce que Jean-Claude Schmitt appelle dans son livre « Les temps modernes », c'est le film de Charlie Chaplin de 1936. Et effectivement, cet écrasement, ou cet effacement, ou en tout cas cette atténuation des trois siècles académiquement confié aux modernistes, est un fait qu'on doit aujourd'hui, à mon avis, aborder. Au fond, je dirais que leur refuser ces trois siècles une rythmicité critique, justement, ne se peut justifier que par la fidélité au long Moyen-Âge de Jacques Le Goff. Or, je ne reviens pas sur la démonstration, elle a encore été faite, me semble-t-il, à l'occasion de la deuxième séance consacrée à l'examen critique de la genèse de l'État moderne, il me semble qu'un tel étirement chronologique, le long Moyen-Âge, ne peut se justifier que si l'on donne à la notion de transition son sens marxiste d'un mode de production l'autre. Et sinon, évidemment, cela pose plus de problèmes que cela n'en résout. Voici pourquoi toutes les séances s'achevait en somme, depuis lors, par l'évocation assez vague d'une frange plutôt indéterminée, sinon de changement d'époque, du moins au fond de moment où on décidait de s'arrêter par épuisement ou par atténuation. Vous me direz, il est au fond assez banal pour un historien de supposer que rien de vraiment sérieux ne se déroule après le moment où il a décidé de poser la plume, parce qu'il faut bien s'arrêter quelque part. Les médiévistes en particulier sont souvent amenés à croire ou à feindre de croire que les mécanismes qu'ils ont héroïquement mis à jour pour les sociétés anciennes, eh bien, filent droit, je dis, continuent sans changement notable, cas un cas, jusqu'à une modernité qu'ils voudraient le plus tard possible et qui, elle, les renverserait. Mais ce que je dis des médiévistes par rapport aux modernistes peut aussi très bien se dire des quatorziémistes par rapport aux quinziémistes. Je veux dire, on confère toujours plus volontiers à ceux qui suivent le soin de décrire une continuation qu'un changement. Et après, on dit en gros, après, c'est pareil. Enfin, c'est pareil en moins bien. En gros, c'est ça. Voilà pourquoi nous achevions la séance précédente sur l'évocation de la contribution que Jean-Frédéric Schaub donna en épilogue à l'histoire du monde au XVe siècle, où il décrivait, j'avais terminé par là, des effets d'accélération, d'intensification et de jeu de miroir qui sauvent en partie l'hypothèse discontinuiste d'un XVIe siècle inaugurant les temps modernes. Et il faut bien reconnaître qu'à cette hypothèse, nous n'avons jusque-là rien opposé de sérieux, nous contentant de déplacer les césures des siècles, le plus souvent en leur mi-temps, 1550, 1560, 1640, 1750. Dans un article des Annales, toujours 1953, qu'est-ce que le XVIe siècle ? Étrange question quand on y pense. Qu'est-ce que le XVIe siècle ? Fernand Braudel se posait donc cette question de l'essence d'un siècle et il y répondait par une vision. Je vois notre siècle coupé en deux, comme Lucien Febvre et mon admirable maître Henri Hauser. Un premier siècle naîtrait vers 1450, puis s'achèvera vers 1550. Un second le relancerait alors jusque vers 1620 ou 1640. C'est assez commun chez les historiens que de scinder, de décaler, et puis, en fait, de faire trembler les limites qui est une manière de ruser avec la notion de siècle, qui a quand même pour elle l'intérêt d'exposer avec suffisamment de candeur et de franchise son propre artifice. Voilà. Et c'est pourquoi, au fond, ce n'est évidemment pas simplement par siècle que les orateurs 16e, 17e, 18e vont se succéder, mais aussi par problème, mais aussi par spécialité, l'histoire politique, économique, l'histoire conceptuelle. Enfin bref, il y a là une architecture savante et subtile que je laisse à son concepteur le soin de présenter. Son concepteur, c'est Guillaume Calafa, qui est maître de conférence à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui, depuis le début, depuis qu'on en parle, c'est d'ailleurs depuis longtemps, a mis en place cette séance. Je l'en remercie, comme je remercie les précédents coordinateurs. Et avec plaisir, je lui laisse la parole et le soin aussi de présenter nos invités.